Bouchal Horé on Mix 92.6. Sponsored by Les Petites Étoiles Bilingual Montessori, a nurturing French and English bilingual nursery for children aged 6 months to 4 years. Find out more on lpe.uk.
Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission de radio tout en français sur Mix 92.6 avec Aline Battister et Elise Lyme.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles!
À nos côtés ce soir au studio, nous avons le grand plaisir d'accueillir Véronique Mistien. D'origine belge et francophone, Véronique a habité aux États-Unis et en Grande-Bretagne, y compris ici à St. Albans, avant de retourner vivre à Bruxelles. Elle va partager avec nous les leçons tirées de sa carrière de journaliste et formatrice couvrant les droits humains, les affaires sociales et humanitaires et le développement international. Plus d'être une journaliste primée et conférencière et formatrice en médias, Véronique a récemment co-créé un podcast avec sa nièce intitulé « En fait, c'est juste du bon journalisme ». Elle va nous parler un peu plus des leçons qu'elle a recueillies dans ce podcast et elle va partager ses pépites avec nous. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Elise, bonsoir Aline, bonsoir tout le monde.
Véronique, je voulais commencer par te demander ce qui t'avait amené vers le journalisme des droits humains et l'humanitaire, le développement international. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que toute petite tu te dis c'est ce que je vais faire ou est-ce que ça t'est venu petit à petit?
En fait, j'ai toujours été intéressée par ce genre de problématiques. Et après des études en Belgique, j'ai fait une maîtrise de journalisme à l'Université de Californie à Berkeley. Et je suis restée dans la baie de San Francisco pendant 12 ans. Et mon premier boulot, c'était pour le Gilroy Dispatch, qui est un journal, en fait, qui était situé dans le territoire à peu près que le romancier américain John Steinbeck a pris comme théâtre pour ses romans Des souris et des hommes et surtout Les raisins de la colère, mm-hmm. qui sont deux livres qui m'avaient fort, fort frappée quand j'étais jeune, qui parlaient de la Grande Dépression des années 30, des travailleurs migrants, des travailleurs agricoles, leur situation désespérée. Et donc, mon journal était situé un peu dans cet environnement-là, la vallée de Salinas, qui est une vallée très fertile, agricole. Et bien sûr, c'était plus la Grande Dépression et les choses avaient changé. Mais les récoltes faites à la main étaient quand même faites par des travailleurs migrants mexicains qui étaient venus seuls en quittant leur famille et qui dormaient dans une sorte de dortoir. Et donc, je me suis fort intéressée à toutes ces problématiques-là. Et puis... donc après 12 ans, on a déménagé en Europe, on est arrivé au Royaume-Uni. J'ai été correspondante à l'étranger pour des grands journaux américains comme le Chicago Tribune, le San Francisco Chronicle et d'autres. Et puis je me suis mise comme freelance et là j'ai décidé de me spécialiser dans les sujets qui m'intéressaient, qui sont donc les droits humains, le développement international... Et l'humanitaire, et j'ai travaillé avec Amnesty International, UNICEF, Oxfam, Plan International.
Rien que ça. Et donc, ces sujets-là, ils peuvent être quand même assez durs et pas forcément attrayants a priori pour les lecteurs et peut-être pour les comités éditoriaux. Est-ce que c'est cette réalité, en fait, le fait que c'était peut-être des sujets un peu difficiles qui a été un catalyseur pour les leçons que tu vas partager avec nous?
Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, quand on couvre l'humanitaire et les droits humains, oui, comme tu dis, ce sont des sujets difficiles à intéresser les gens, à intéresser les rédacteurs. Et alors, ce qu'on fait, en général, on essaye de montrer la situation brutale, désespérée, et donc on se concentre là-dessus. Et puis, à un moment, je me suis dit, il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas demander, par exemple, aux femmes qui ont été violées au Congo de nous raconter dans les détails les pires, ce qui leur est arrivé. Il doit y avoir une autre façon d'intéresser les gens. Et c'est comme ça que je suis arrivée vers le journalisme constructif de solutions. Et aussi... d'essayer de présenter les victimes justement sans les victimiser, parce qu'en fait c'est des personnes à part entière, il faut pas les limiter dans leur statut de victime. Et le journalisme aussi citoyen, qui est un journalisme qui essaye de diversifier les voix et de démocratiser.
J'aimerais maintenant qu'on aille un peu plus en profondeur sur cette première leçon qui est le journalisme constructif ou de solution. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ?
Oui, je pense que c'est une bonne idée de commencer par ça, parce que je pense que c'est peut-être la leçon qui parlera au plus d'auditeurs. Parce qu'en fait, on est tous exposés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à de l'actualité, des nouvelles, et qui est en général négative. Parce qu'en fait, c'est le rôle des journalistes de montrer ce qui ne va pas, de parler des problèmes, des tragédies. Et en fait, ça a un impact sur notre santé mentale. Il y a beaucoup d'études un peu partout qui ont montré que d'être exposé à tellement de nouvelles négatives continuellement rendait les gens déprimés, fâchés, frustrés, donnait un sentiment d'impuissance. C'est tout le temps la même chose, on ne peut rien y faire. Et puis vraiment, c'est le niveau, c'est relentless, je ne sais pas comment dire en français.
Ça ne s'arrête jamais.
Ça s'arrête, c'est incessant.
Ouais.
Et le journalisme constructif, le journalisme de solution, essaye de redresser un peu la balance. Parce qu'en fait, en réalité, dans la vie, tout n'est pas négatif. Il y a des choses qui se passent merveilleuses. Il y a de la collaboration, il y a de la solidarité. Il y a des gens qui se battent pour des solutions. C'est vrai qu'on fait face à des problèmes énormes avec la crise climatique, la crise des réfugiés, la montée du populisme, de l'extrême droite. Mais il y a des gens qui répondent, qui font des choses. Il y a des innovations, il y a du progrès, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est important de le montrer aussi, parce que ça donne de l'espoir, ça réengage les gens. Les gens ont plus à leur envie de s'informer que si leur diet de médias est plus balancé, que c'est pas juste négatif. Et aussi, ça donne envie d'agir, ce qui est important.
Donc, est-ce que c'est une façon de nous redonner un peu de... Alors, je vais utiliser un terme anglais de agency, mais un peu de pouvoir, justement, sur notre destin et le destin des autres. Est-ce que finalement, c'est une façon de se remonter le moral ?
C'est absolument une question de agency. Oui, parce qu'en fait, ça donne du pouvoir aux citoyens. Ça pousse aussi au changement, parce qu'en fait, si on peut, les politiciens disent toujours oui, on voudrait bien, mais c'est pas possible, ça ne se fait pas. Et si on peut dire oui, mais en fait, dans telle ville ou tel groupe de gens, ils étaient confrontés au même problème, ils ont trouvé une solution, c'est ça qu'ils ont fait, on pourrait faire la même chose. Donc, de savoir que quelque chose a été possible quelque part donne du pouvoir.
Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, justement, de journalisme de solutions constructives dans ta propre expérience ?
Oui, en fait, je vais peut-être parler du dernier article que j'ai fait, qui était publié le mois passé par Al Jazeera, qui est le réseau international basé au Qatar. C'était un article sur un aspect de la guerre au Tigré en Éthiopie qui était de 2020 à 2022. Et un aspect de cette guerre, et qui se passe malheureusement dans trop de guerres de par le monde, c'était d'utiliser le viol comme arme de guerre, de violer systématiquement les femmes et les jeunes filles. Je pense qu'il y avait eu 150 000 femmes et jeunes filles qui ont été violées systématiquement, brutalement. Et l'article traditionnel parlerait du contexte, expliquerait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la guerre, parlerait des viols, parlerait des conséquences des viols, parce qu'en fait, c'est une arme super effective, parce que la honte, le stigma est tellement fort que souvent, les femmes pensent qu'elles ont dû faire quelque chose de terrible pour que ça leur arrive. En tout cas, au Tigré, les maris quittent les femmes qui ont été violées, la communauté ne veut plus les voir non plus. Donc toute la honte est mise sur la femme et ça détruit les communautés. Donc l'article traditionnel et important parlerait de tout ça, qui doit être fait. Mais de faire un angle constructif ou de solution, c'est d'aller un peu plus loin. Donc on parle du problème, mais on ne s'y arrête pas. Ce que les journalistes en général font, c'est d'essayer de voir est-ce que quelqu'un a fait quelque chose, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et en général, dans mon expérience, si on se pose cette question, on trouve toujours quelque chose qui a été fait. C'est rare qu'il y ait quelque chose de terrible qui se passe, une tragédie, et que personne n'a rien essayé de faire. Et dans ce cas, au Tigré, il y a un groupe de femmes qui étaient désespérées d'aider ces femmes qui étaient traumatisées. Et en fait, les femmes traumatisées ne pouvaient parler à personne, puisqu'il y avait cette honte tellement, tellement forte, même pas entre elles, elles osaient même pas en parler. Elles pensaient qu'elles devenaient folles, parce qu'en fait, elles disaient qu'elles criaient sur leurs enfants, même sur les animaux, elles se perdaient, elles avaient des cauchemars, elles brûlaient la nourriture, elles savaient plus, elles fonctionnaient vraiment plus. Et donc, un petit groupe de femmes connaissait des femmes au Rwanda, qui étaient passées par quelque chose de terrible aussi après le génocide, et qui avaient instauré des groupes de parole, des groupes d'écoute pour femmes, où on prend une femme de la communauté qui a vécu la même chose, mais qui a l'air un peu plus résiliente, et on la forme au trauma. Qu'est-ce que c'est le trauma? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement, physiquement? Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas de psychologue, il n'y a personne qui peut aider ces femmes, tandis que cette méthode-là est facile, elle peut s'adapter culturellement à différentes cultures. Bon, forcément, elle ne résout pas tout, mais c'est un premier pas, une première approche, et ça peut être reproduit autre part.
Donc ça donne un peu de... Oui, des solutions et un peu d'espoir aussi.
Exactement.
Ouais.
Aline Bavista and Elise Lines on Mix 92.6.
Juste pour prévenir que du fait de son rôle de journaliste dans l'humanitaire, les crises, etc., on traite de sujets un petit peu délicats, un petit peu difficiles. Donc voilà, c'est un trigger warning et on vous donnera en fin d'émission des numéros de soutien si vous avez été touché par certains de ces sujets. Donc Véronique, avant la pause, tu nous parlais de journalisme constructif et de solutions et on s'était mis d'accord sur le fait que ça donnait de l'espoir à tout le monde, non seulement aux victimes, entre guillemets, mais aussi aux lecteurs. La deuxième leçon dont tu nous avais parlé, c'était justement la représentation des victimes et comment éviter de les victimiser. Je ne sais même pas si c'est un verbe. Est-ce que tu peux à présent partager tes leçons sur cet angle qui, je pense, prend plus d'ampleur et enfin, c'est mon impression personnelle, c'est qu'il y a aussi une démarche consciente par rapport aux médias de l'Ouest et du Nord de porter un regard un petit peu moins comment on dit, patronizing, par rapport aux pays du Sud, par exemple. Est-ce que ça fait partie un peu de cette nébuleuse ou
oui
ou pas?
Oui, c'est tout à fait, c'est une bonne observation. Oui, quand on couvre l'humanitaire, on couvre entre guillemets les victimes de tremblements de terre, de tortures, de guerres, les personnes sans logis, les réfugiés, toutes ces problématiques-là, et pour essayer de forcer les gens à s'en préoccuper. Ben justement, on montre, comme j'avais dit, dans toute la brutalité de la situation des gens. Un peu comme le journalisme de solutions constructives, mon expérience à moi montre en fait que c'est pas tellement la réalité non plus. presque 40 ans de carrière de journaliste, je pense que j'ai jamais vu des victimes qui étaient juste victimes, qui attendaient qu'on les aide et qui baissaient les bras et qui ne faisaient rien. En général, les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont dans des situations, bien sûr, très très difficiles, mais qui ne baissent pas les bras, qui sont résilients, qui ont de l'agency, qui survivent et qui ont plein de qualités. Et je pense que le pire qu'un journaliste peut faire, c'est les réduire à leur situation de victime quand ils sont plein d'autres choses. Et c'est souvent les victimes elles-mêmes qui me l'ont fait comprendre. Et j'ai un exemple d'un jeune Syrien qui s'appelle Amar, qui avait dû quitter la Syrie au début de la guerre. Et il avait 25 ans. Il venait d'une classe assez aisée. Ses parents avaient une petite usine de vêtements. Il est venu à Londres parce qu'il veut travailler dans la mode et il pense que c'était le pays idéal pour ça. Et je demandais qu'est-ce qu'il avait pris avec lui dans son petit sac à dos pendant ce long trajet de Syrie jusqu'à Londres qui avait pris des mois et des mois et des mois. Alors il me dit des livres, des vêtements, des fruits pour ne pas devoir aller à la toilette. Et alors il me dit un sèche-cheveux. Et là, moi, je suis soufflée parce que, bon, ouais. Un sèche-cheveux... Et alors, il me dit, oui, je suis très fière de mes cheveux, j'ai des beaux cheveux. Et c'est vrai que c'était un beau jeune homme avec des beaux cheveux bouclés noirs. Et il me dit, j'étais forcée d'être réfugiée, mais je voulais arriver à Londres comme moi-même et pas comme un réfugié. Et je me suis dit, mais bien sûr, souvent, par nos questions, en pensant bien faire, les journalistes cantonnent les personnes dans leur statut de victime, de réfugié, quand tout ce qu'ils veulent, eux, c'est aussi montrer qui ils sont derrière. Et j'ai un autre exemple, s'il y en a encore le temps.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
C'était au Rwanda, j'étais retournée 10 ans après le génocide, donc il y avait le génocide en 94, si je parle en français et pas en belge.
Non,
et donc il y avait eu 1 million de Tutsis qui avaient été massacrés et beaucoup d'autres génocidaires étaient mis en prison. Donc il y avait une population d'orphelins énorme et le gouvernement savait pas très bien quoi faire de tous ces orphelins. Et ils avaient créé des villages d'orphelins. Et j'avais visité un village d'orphelins à Kimironko, près de la capitale Kigali. Et c'était des jeunes de 24 à 4 ans, peut-être. Et ils m'expliquaient qu'ils avaient des cauchemars, que c'était difficile, qu'ils avaient vraiment... leur situation était difficile, ils avaient peur pour leur avenir, ils ne savaient pas très bien comment s'en sortir... Et puis je les regarde et je vois qu'ils sont tous super bien habillés, presque de chemises repassées. Et au Rwanda, on est sous les tropiques et moi, je devais avoir l'air vraiment débraillée avec mon t-shirt et mon jean. Et je leur demande, je dis, comment ça se fait dans des conditions comme ça que vous pouvez être si bien? Et alors, il y en a un qui me dit, et j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ceux qui ont tué nos parents voudraient qu'on vive comme des chiens. Mais alors on se fait un point d'honneur à ne pas être comme des chiens, à vivre comme des êtres humains et à pas montrer comme on est en fait battu à l'intérieur. Et de nouveau, je crois que c'était une leçon pour les journalistes de laisser l'humanité, la dignité aux gens et de pas les réduire dans le rôle de victime.
Waouh, quelle belle histoire, ça donne des frissons. Je crois que ça explique très bien ce que tu veux nous communiquer par rapport à la représentation des personnes dans leur entirety. J'arrive plus à parler.
C'est moi qui te fais leur entièreté.
Ça va pas du tout. Hein. Les auditeurs vont nous appeler pour dire vous savez plus parler français.
Parlez plus français.
On pourrait en parler toute la soirée, Véronique, parce que c'est vraiment fascinant. On va inviter nos auditeurs à aller écouter ton podcast que tu as donc créé avec ta nièce. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ce podcast et où le trouver, s'il te plaît?
Ça s'appelle « C'est juste du bon journalisme ». Ça se trouve sur Spotify, sur SoundCloud. Et puis maintenant, C'est hébergé à l'Université libre de Bruxelles, mais là, peut-être, je donnerai le lien.
Oui, oui, puis on le partagera également. Merci beaucoup, Véronique. Je voulais juste donner les coordonnées du Rape Crisis Center, puisqu'on a parlé de sujets assez difficiles ce soir. Vous pouvez appeler 08 08 522 22 si vous avez été affecté par cette problématique, ou vous pouvez aussi aller en ligne Rape Crisis, donc rapecrisis.org.uk. Voilà.
Véronique, un grand merci d'être passée au studio de Bouche à Oreille. On mettra le lien de votre podcast sur nos réseaux pour que les auditeurs puissent le retrouver facilement.
Merci, avec plaisir, et merci de m'avoir invité.
Bouche à Oreille on Mix 92.6. Sponsored by Les Petites Étoiles Bilingual Montessori. A nurturing French and English bilingual nursery for children aged 6 months to 4 years. Find out more on lpe.uk.